Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour, bonjour. Voilà, donc c'est l'avant-avant-dernier cours. Le dernier aura lieu le 27 mars. Alors, aujourd'hui, je vais vous fausser compagnie à 16h25 au lieu de 16h30 parce que je suis attendu à une réunion plus loin. Alors, on avait vu bien en détail les cycles peints sur les murs à Peljikent représentant l'épopée nationale iranienne, tournant en général autour du héros Rostam et en général aussi analysable à la lumière de du Shahnameh, l'épopée nationale persane composée aux alentours de l'an 1000. Alors, il faut signaler que ce répertoire n'épuise pas la totalité du répertoire épique qu'on a à Peljikent. Il y a aussi quelques récits dont on saisit une certaine cohérence interne, mais qu'on n'a pour le moment retrouvé dans aucun texte. L'un de ces récits, ou plutôt deux, parce que c'est représenté avec des épisodes différents dans deux maisons, ce sont des combats dont une partie des protagonistes sont clairement des Amazones, des femmes guerrières. Il y a des personnages qui sont pas des Amazones, des personnages qui en sont. Ce cycle peint est vraiment remarquable parce que comme il fait partie de ceux qui ont été dégagés relativement récemment, les techniques de sauvetage des pigments étaient beaucoup plus au point et donc ça laisse vraiment voir la splendeur de ces couleurs. Alors vous voyez là, elle est habillée avec un pantalon en peau de panthère en fait, comme le héros Rostam qui lui aussi a des ancêtres nomades. Elle a quatre tresses. Ça c'est important parce que en Sogdiane, ça la signale comme femme non mariée. Quand les femmes sont mariées, elles ont deux tresses. Quand elles en ont quatre, ça veut dire non mariée. Et ça correspond très bien à la notion des Amazones telles que les Grecs nous les ont transmises, c'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas d'époux. Et même étymologiquement, il semblerait que l'explication la plus convaincante du mot « Amazone », c'est un ancien mot iranien « amouja » qui veut dire « les sans-mari ». Voilà. Donc c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent, sauf que on ne connaît pas ce récit. Alors en Iran, il y a eu depuis l'époque perse et peut-être même dès avant l'époque des Mèdes des récits sur les Amazones. Les récits que les Grecs ont su des Amazones, c'était parfois directement par les colonies de mer Noire, et parfois ça passait par l'intermédiaire des Perses. Évidemment, c'est sans doute en partie le reflet des contacts que aussi bien les colonies de mer Noire que les Perses avaient au nord avec la population nomade des Sarmates, donc descendants des Scythes, où l'on sait archéologiquement qu'il y avait des Amazones. On a des tombes de femmes guerrières. C'est probablement, disons, une des origines du mythe. Mais dans le légendaire iranien, mais qu'on connaît pour l'époque ancienne, transmis uniquement par les Grecs, on a notamment le fameux épisode de la mort de Cyrus le Grand, qui trouve la mort, en fait, tuée en combat singulier, ou plutôt qui périt, il est fait prisonnier, et il périt de la main de Thomyris, reine des Amazones. Et puis, on nous dit aussi que Alexandre, quand il se trouvait à Samarcande, a reçu une délégation de la reine des Amazones. Bien. Du côté des sources que nous utilisons d'habitude pour expliquer ce genre de répertoire, on ne trouve rien, en fait, dans les sources sogdiennes, les sources moyennes iraniennes. Et dans le Shahnameh, Il y a un épisode qui évoque une Amazone, c'est la princesse Gordor Farid qui affronte en combat singulier le fils de Rostam, qui s'appelle Sohrab. C'est tout, c'est le seul épisode où on a une femme guerrière, et Alexandre Beleniski avait pensé que ça pouvait être cette histoire-là. Mais il y a vraiment des grosses différences, ne serait-ce que Gordor Farid combat seul. Et ici, c'est une armée, elles sont plusieurs, voilà. Et puis par ailleurs, il y a un personnage, alors là, qu'on arrive... Alors voilà, ça c'est dans une autre maison que celle dont j'ai montré auparavant la peinture. On voit, voilà, c'est clairement ici une Amazone qui combat à pied avec sa robe, là, vous voyez, et qui tient l'épée. Ici aussi, elle est en armure, c'est aussi une Amazone. Et il y a dans ce cycle un personnage problématique qui combat. Il est en armure, c'est un homme, il est barbu. Même peut-être la barbe comme ça, longue en pointe, ça veut dire un homme d'âge mûr. Et il a comme caractéristique, vous voyez, on ne voit pas très bien là, mais au sommet de son halo qui est solaire, on voit des traces de rayons, il y a un cheval qui est dressé. Alors normalement, dans la symbolique sogdienne, ça indiquerait le dieu qui est en rapport avec ce personnage. Le problème, c'est que le cheval est en rapport avec plusieurs dieux zoroastriens. Il y a Tishtria, le dieu de la pluie, qui se manifeste parfois sous la forme d'un cheval. Il y a Wahram, le dieu de la guerre, qui se manifeste sous sept formes animales, dont le cheval. Et il y a Mitra. Et c'est plutôt Mitra qui est spécifiquement associé au cheval, parce que comme vous savez, il conduit un char solaire tiré par quatre chevaux, et c'est sous cette forme qu'il apparaît tous les matins au-dessus des montagnes. Donc, et puis qui tirerait aussi vers Mitra le fait que le nimbe est solaire. Alors, les flammes sortant des épaules, ça se retrouve parfois dans la peinture sogdienne, c'était l'indication du charisme divin qui habite le personnage, qu'on appelle le Farn. Bon, mais tout ça, ça ne nous dit pas qui est ce personnage, parce que je doute qu'il s'agisse de Mitra lui-même. Je ne vois pas Mitra combattre à pied, surtout en position clairement difficile, comme on voit ici. Alors, un champion de Mitra, un personnage qui lui serait affilié d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, on n'a pas de texte qui nous parle de ça, ni de l'association d'un tel personnage avec les Amazones. Un autre cycle dont on a ici la fin, c'est le combat de deux personnages. Alors, il se trouve que, je vais revenir là-dessus, on a un texte mal conservé, mais qui parle de ce récit. Le texte est écrit dans la porte ici. Semblerait que les deux héros s'appellent Varg, ce serait le vainqueur, ce serait lui, et Thwenak, qui serait lui. Et Varg veut dire seigneur, et Thwenak, apparemment, c'est le terrible. Bien. Alors, le terrible, il n'est pas en très bonne posture, parce que vous voyez qu'il a clairement été désarçonné dans un combat précédent. On ne combattrait pas un chevalier à cheval, ne combattrait pas quelqu'un à pied qui n'a pas d'abord été sur son cheval. Et il a perdu son casque aussi. Bon. Et là, on dirait qu'il meurt. Apparemment, il ne meurt pas. Il réapparaît après. Voilà. Et devant un château, c'est une belle représentation d'un château sogdien avec ces décors de briques qui prenaient l'ombre et la lumière et qu'on a retrouvé archéologiquement dans les châteaux sogdiens. Et on a l'impression que les habitants du château, dont semble-t-il une femme, mais je ne suis pas persuadé, sont de son côté à lui, parce qu'ils ont l'air de jeter des pierres sur l'assaillant. Ici, on a donc ce texte. Vous voyez, la photo n'est pas très bonne, mais on voit ici le texte sogdien écrit de haut en bas. C'était une manière d'écrire le sogdien. Ça se trouve aussi dans la fameuse peinture des ambassadeurs à Samarcande. Le problème, c'est que le texte, c'est clairement en rapport avec le récit, et le fait même d'inscrire un texte dans un élément de l'architecture va se retrouver après dans la miniature persane. Il y a des miniatures persanes où on a des vers qui sont dans le décor. Bon, mais on ne peut pas déterminer, j'ai posé la question à Pavel Lourier qui a fait les études les plus poussées sur la versification sogdienne, ici on ne peut vraiment pas déterminer si le texte est rythmé ou pas. Alors, on semble lire que le combat se déroule devant une demeure, alors bon, visiblement c'est l'enjeu, c'est la prise de ce château. Et on semble lire aussi que le vainqueur, Varg, a attaché le vaincu avec une corde. Et c'est comme ça que Marchak a interprété ce qu'on voit ici. Et je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Parce qu'en fait, on ne voit pas quelqu'un, on ne le voit pas attacher l'autre avec une corde, on le voit attraper sa ceinture. Et là, ça renvoie à un symbolisme bien connu en Iran. Il y a une symbolique très poussée sur la ceinture. Ça a été très bien étudié, notamment dans cet article de Geo Wiedengren. Alors, petite parenthèse, c'est un représentant de l'école suédoise d'iranologie qui a eu un certain succès dans les années 50, 60. En France, ils ont été très soutenus par Georges Dumézil, qui a fait traduire, publier beaucoup de leurs travaux. Bon, ils sont un peu passés de mode aujourd'hui, parce que, du point de vue philologique, ils n'étaient pas vraiment au point par rapport aux dernières avancées. Et puis, idéologiquement, ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que, c'était des grands romantiques scandinaves faisaient du comparatisme parfois très hasardeux. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça mérite toujours d'être lu. En tout cas, c'est toujours excitant. Et alors, ce que Wiedengren, qui évidemment ne connaissait pas cette peinture, qui d'ailleurs n'avait pas encore été découverte à ce moment-là, et il n'était pas au courant en fait des données, il ne suivait pas les données archéologiques d'Asie centrale. Il cite plusieurs textes dans son article. Alors, un texte de l'Antiquité, c'est Xénophon, l'Anabase, donc un récit guerrier qui se déroule dans la Perse achéménide. Cyrus le Jeune, le prétendant rebelle pour le trône achéménide, a un compagnon qui s'appelle Orontas qui en fait le trahit. Alors Orontas est condamné à mort par Cyrus, et voilà, je cite le texte que cite Wiedengren. Après cela, sur l'ordre de Cyrus, tous les assistants se levèrent et saisirent Orontas par la ceinture en signe de mort, même ses proches. Ensuite, il fut emmené par ceux qui en avaient reçu l'ordre. C'est le geste qu'on voit ici. Et plus précis encore, on retrouve exactement, et ça Wiedengren l'avait vu, on retrouve exactement le même code symbolique en 840 à Samara, alors capitale du califat abbasside, lors du procès de quelqu'un que nous avons déjà vu. C'est Haïdar Afshin, le dernier roi d'Oustrouchana, possible propriétaire du palais dont on a vu les peintures. Je reviens sur lui. Voilà, il s'appelait Haïdar, nom adopté à la conversion à l'islam. Afshin, c'est roi d'Oustrouchana. Et donc, c'est lui, il a terminé général en chef des armées du calife. Et puis, il a été accusé de trahison. Et alors, bon, c'est toute une histoire passionnante, mais que je ne vais pas raconter en détail ici. On lui a fait un procès stalinien. C'est-à-dire le type de le procès où l'accusé lui-même, l'accusé au lieu de se défendre est obligé de s'accuser lui-même. C'était très très bien combiné. Il se trouve que voilà ce qui se passe au moment où il est condamné. Le chef de la garde turque du calife, qui s'appelle Bourra, nom turc, porte la main sur la ceinture de Haïdar Afshin et le tire à soi. Et Haïdar lui dit « Voilà ce que j'attendais de ta part dès avant aujourd'hui. » Ça veut dire quoi? C'est que le chef de la garde turque convoitait la position de général en chef des armées du calife. Et donc, c'est lui qui a accompli ce geste d'humiliation. Alors, Widengren a bien décrypté l'arrière-plan symbolique de ce geste. La ceinture en Iran, c'est un signe, pas seulement en Iran d'ailleurs, mais enfin disons, pour le moment on va dire en Iran, c'était aussi le cas dans l'Empire romain, hein. C'est un signe de soumission et de fidélité au Seigneur. On le reçoit quand on se met au service d'un roi, on reçoit une ceinture qui est un signe de fidélité. Et quand on la saisit, en fait, on la rompt symboliquement. C'est-à-dire que c'est pour une façon de manifester que le vaincu, le déchu, le condamné n'est plus digne de la porter parce qu'il a trahi la fidélité à son Seigneur. C'est exactement l'équivalent dans les cérémonies de dégradation militaire, c'est l'équivalent de l'arrachage des insignes. C'est la dégradation du capitaine Dreyfus à qui on a arraché ses épaulettes. C'est exactement la même chose. Donc, ça permet de supposer... tout ça, c'est moi qui vous le dis, hein, parce que c'est pas ce que Marchak pensait, mais c'est ce que je pense avoir trouvé en préparant ce cours. On peut conjecturer que le vaincu, Souenac, avait trahi sa fidélité, soit envers Vague, soit envers le Seigneur auquel celui-ci obéit. Voilà. Alors, on a fini avec les épopées. Bon, j'espère que d'ici l'année prochaine, ils vont en trouver encore d'autres, parce que ça n'arrête pas de sortir de terre à Penjikent. Et on va en venir maintenant au deuxième volet de mon cours, qui va sans doute se poursuivre l'année prochaine. Ce sont les contes. L'univers fantastique des contes. L'univers inépuisable des contes sogdiens. Connu sous deux formes, qui se recoupent parfois, par écrit et par image sur les peintures murales. Alors, les questions qui... Alors, je dis tout de suite, image sur les peintures murales. Les contes occupent la partie inférieure du panneau, des panneaux. Au-dessus, c'est les récits épiques. Et donc, c'est un genre qui est à la fois subordonné, mais en même temps plus proche du visiteur, ce qui peut expliquer le choix délibéré d'un mode d'expression très énigmatique. Je vais vous développer là-dessus. Ça fonctionnait un peu comme des charades. Voilà. Et les questions qui se posent au sujet de ce répertoire des contes sont du même ordre que celles qu'on s'est posées pour les récits épiques. Premièrement, d'où est-ce qu'ils sortent? Deuxièmement, par quelle convention particulière les peintres sogdiens ont-ils choisi de traiter ce répertoire? Alors, la première question, donc l'origine, c'est d'une complexité extrême, comme vous allez le voir dans ce cours et dans les cours suivants. Il y a des cas nombreux où une version écrite est identifiée, soit dans les textes sogdiens, soit ailleurs. Mais il n'arrive pratiquement jamais que ce qui est représenté dans la peinture corresponde au texte ou à aucune version du texte. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Bien. La deuxième question, la question esthétique, les codes représentationnels, ça a été très très bien traité par Marchak en 2002 dans son extraordinaire livre que je n'arrête pas de citer, Légendes, récits et fables dans la peinture sogdienne. Donc, je l'ai dit, ces histoires occupent quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les maisons, hein. Quand il y en a, elles occupent le registre inférieur, et dans ce registre inférieur, chaque histoire n'occupe qu'un panneau. Il y a quelques cas, on a supposé que ça débordait sur le panneau suivant, mais c'est pas sûr. Hein. Alors, on pense à des... typiquement, ça peut être un panneau assez allongé. Alors, je reviendrai là-dessus, je vous dis tout de suite, c'est l'histoire du chacal qui sème la zizanie entre le bœuf et le lion. Voilà, réduit donc à quelques éléments et traité sous forme d'un long panneau. Alors, on a supposé, Marchak avait supposé, que parfois il y aurait pu avoir des modèles dans des livres, des codices, hein, des livres, pas des rouleaux, des livres, de format allongé. Et on a ça encore au Népal et au Tibet, dans des traités bouddhiques. Alors, des images de ce type auraient pu éventuellement servir de modèle à ce type de composition. Alors, dans certains autres cas, on soupçonne que la succession des panneaux, dont chacun est affecté à un compte, reproduirait en fait ce qu'on trouvait en feuilletant le volume. Bien. Marchak a pensé aussi à l'utilisation de cahiers de dessin que le peintre aurait pu avoir depuis son apprentissage, avec des modèles passe-partout, un petit peu, voilà, des modèles qui pouvaient être transposés comme il voulait. Parce que assez souvent on constate que d'un compte à l'autre, les animaux se ressemblent, les humains se ressemblent, comme s'il y avait donc des cahiers de modèles que le peintre combine à sa guise en fonction de l'histoire qu'il veut illustrer. Alors, une autre hypothèse de Marchak, c'est à propos de scènes comme celle-là, vous voyez, ça représente en fait, ce sont des couples amoureux, hein. Le dessin n'est pas très bon, apparemment, voilà, c'est ici, il veut lui donner à boire, elle minaude. Bon, et on a pensé que ça pouvait venir, que ça pouvait sortir de recueils de poésie élégiaque, de poésie amoureuse. On a encore ça plus tard dans la miniature persane. Donc voilà. Des modèles picturaux qui ont pu être vraiment de nature assez diverse. Alors, parfois, on constate que les panneaux successifs, même s'ils sont affectés à des histoires différentes, reproduisent parfois ont des affinités entre eux, qu'on a raccroché les histoires par sujet. Et un exemple assez significatif, c'est que justement dans le cycle de Rostam, on ne va pas le détailler ici, sous le cycle de Rostam, il y a trois histoires qui mettent en scène un juge. Et il y a une ou deux histoires qui mettent en scène un criminel. Et ça se retrouve nulle part ailleurs. D'où l'idée de Marchak. Est-ce que c'était la maison du juge ? Voilà. On peut penser à ça. Alors, si on additionne tout ce qu'on a trouvé comme compte dans les diverses maisons aristocratiques, il faut savoir qu'il y a ce qu'il y avait dans le livre de Marchak en 2002, et depuis, on en a trouvé beaucoup d'autres. On arrive à, disons au bas mot, plusieurs dizaines de comptes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi eux, ceux qui sont figurés deux fois sont l'exception. En général, on les a qu'une fois. Donc, d'où deux conclusions qu'on peut tirer de cela. Premièrement, le répertoire disponible par divers canaux était énorme. Et deuxièmement, les commanditaires, les propriétaires, probablement cherchaient l'originalité par rapport aux voisins. Et le peintre était en état, avec la documentation graphique qu'il avait et sa propre créativité, de répondre à cette demande. On ne voulait pas avoir les mêmes comptes que chez le voisin. Alors, le style, vous en avez déjà une idée donc, avec ce compte que j'ai montré, je dirais, il est extrêmement elliptique, très simplifié. C'est beaucoup, on avait déjà remarqué ça pour les récits épiques, mais là, c'est à l'extrême. Ce sont, en fait, tel que ça se présente, ce sont des énigmes, des charades. On a quelques personnages, et puis il faut se débrouiller pour comprendre ce que ça représente, et si on est encore plus fort, réciter, connaître le conte qui est illustré là. Alors, bon, on peut se demander, c'est assez séduisant comme hypothèse, si ça n'était pas utilisé dans des jeux sociaux. C'est-à-dire, on testait l'astuce du visiteur. Il y avait celui qui était capable d'expliquer à l'assistance ce que ça représentait, et puis il y avait le plouc qui comprenait pas. Voilà. Le peintre sogdien mettait son public dans la même situation de perplexité où nous nous trouvons nous-mêmes. Alors, des originalités par rapport aux scènes épiques, la vie artisanale et commerçante est davantage présente. C'est un répertoire de niveau social plus nettement moins aristocratique, nettement moins chevaleresque. Bon, c'est comme le fabliot, c'est comme les rapports qu'entretient le fabliot médiéval avec les épopées, hein, le cycle arthurien. Les femmes sont davantage présentes. Quand elles sont présentes dans les grands cycles épiques, c'est toujours quand même assez exceptionnel. C'est la princesse captive ou là, elles sont présentes dans la vie courante. Les rois apparaissent parfois, mais ils sont plutôt des personnages comiques. Et par ailleurs, les physiques ne sont pas idéalisées selon les conventions habituelles. Dans les scènes aristocratiques, les épaules sont larges, la taille est mince. Là, c'est davantage, c'est pas particulièrement marqué. Plusieurs personnages, alors celui-là, on va y revenir parce qu'il est prodigieusement intéressant. Plusieurs personnages sont en costume, sont représentés en fait comme des Indiens. Lors même que dans l'histoire, c'est pas évidemment un Indien. Ici, le modèle, tout vieillard est représenté comme un ascète indien. Alors que, ici, c'est pas un conte indien. Voilà. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est. Bon, y avait-il quand même des modèles iconographiques indiens ? Ça peut être aussi une recherche délibérée d'exotisme. C'est-à-dire que. C'est une façon de dire « il était une fois dans un pays lointain ». Ça transporte l'auditeur du conte dans un univers qui n'est pas le sien. Alors, la question des sources, comme je vous l'ai dit, extrêmement complexe, se présente en gros selon quatre cas de figure. Voilà. Premièrement, les contes qu'on a à la fois en texte sogdien et en peinture. Je vous dis tout de suite, il y en a très peu. Deuxièmement, ceux qu'on n'a qu'en texte sogdien, on ne les a pas trouvés en peinture. Troisièmement, ceux qu'on a qu'en peinture, mais qu'on peut identifier dans des versions dans d'autres langues, bien. Généralement indiennes. Et puis, ceux pour lesquels on est vraiment très, très perdu. Et à ce moment-là, il faut recourir au bon vieux Arne Thompson, « Patterns of the Folk Tale ». C'est un livre génial écrit au début du XXe siècle qui a établi une typologie universelle des contes, à partir d'un certain nombre d'éléments de base. Et ce livre n'a pas arrêté d'être réédité, amélioré, augmenté. Il y avait d'abord Arne, ensuite un anglais Thompson qui a fait une deuxième édition, et il n'y a pas très longtemps, donc en Allemagne, je ne me rappelle plus exactement le nom de celui qui a assuré cette réédition, toujours sous le nom d'Arne Thompson, une nouvelle édition et qui là intègre des contes de domaines beaucoup plus lointains, américains, africains, etc. Quand on est devant un récit, on n'arrive pas à l'identifier, on essaie de dégager des éléments constitutifs, on va chercher dans Hans Thompson, et en général, on trouve quelque chose. Et en plus, ça donne toutes les variantes, absolument toutes les variantes, avec des sous-types, etc. La princesse... alors, si vous avez la rubrique Cendrillon, alors, il n'y a pas que le Cendrillon de Perrault. Il y a des Cendrillons partout sur la Terre. Et alors, à chaque fois, il y a un certain nombre de thèmes. La mauvaise mère, les sœurs forcément toujours méchantes, la princesse qui est la plus jolie des trois. Et on retombe là-dessus. Alors, regardons un peu en détail. Catégorie 1. C'est-à-dire les contes qui sont à la fois en texte soguien et en peinture. Ben, il y en a vraiment très très peu. Il y en a un ici. Il se trouve qu'en fait, c'est dans un conte manichéen qui n'est pas transmis en soguien, mais qu'on a en parthe. Mais comme beaucoup de contes soguiens ont été traduits du parthe, vraisemblablement, il a dû aussi être transcrit en soguien. Alors, quelle est l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire bien connue. C'est le roi qui convoque ses fils et qui prêche l'entente entre eux. C'est-à-dire qu'il est là, il demande à l'un d'entre eux de briser un faisceau de flèches. Il demande à trois d'entre eux de casser une flèche. Ils y arrivent tous. Et puis à la fin, il leur demande de casser un faisceau de flèches. Ils n'y arrivent pas. Donc, l'union fait la force. Alors, c'est déjà dans Ésope, ça s'est répandu partout en Asie. Jean Giscan est dit avoir donné cette leçon à ses fils, de la même manière. Et ça a plutôt marché, parce que les fils de Jean Giscan ne se sont jamais fait la guerre entre eux. Contrairement aux petits-fils, où là, ça commence à déraper, dans le cas de Jean Giscan, la leçon a porté. Alors, il y a un autre conte qui pose problème, parce qu'on a tenté de trouver une origine dans un texte, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. C'est le conte... Marchak a appelé Amour psyché, c'est déjà de la typologie. Hein. Le conte, on l'appelle donc le vieillard, sa fille et l'esprit de l'océan, qu'on a comparé avec un conte sogdien publié par Henning qui était Le marchand et l'esprit. Je vais en parler après. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a deux scènes. Séparé par une plante qui a trois fleurs. La jeune fille, qui n'est pas mariée, vous voyez, elle a quatre tresses, apparaît dans les deux scènes. À droite, on a un vieillard, donc figuré comme un ascète indien, qui, de sa main gauche, tient une carafe. Ouais, et de sa main droite, c'est pas très clair, mais il semble qu'avec un bol... il verse de l'eau sur la main de la fille. À gauche, la même fille va au bord de l'eau. Cette convention indique la berge. Elle va au bord de l'eau. Alors, là aussi, c'est pas très clair parce que elle a l'air de puiser de l'eau, donc ce serait une rivière, mais en même temps, on a des dauphins. Enfin, les dauphins, c'est peut-être simplement la façon de symboliser l'élément aquatique. Et au moment où elle va au bord de l'eau, elle n'a pas l'air particulièrement effrayée, un être fantastique émerge nu à mi-corps de l'eau. Alors, il a quelques traits démoniaques. Enfin, il a un turban. Et vous voyez, il a les sourcils froncés. Mais il n'a pas de croc. Donc, il a des traits démoniaques, mais ce n'est pas vraiment un démon. Bon. Alors, il semblerait qu'il y a un jeu qui se produit entre la cruche et l'anneau qu'il tient. Alors apparemment, dans la cruche, voilà, il y avait un anneau. Et la fille a plongé la cruche dans l'eau, et le démon, du fond de l'eau, a ramassé l'anneau et le présente à la fille. Ça, c'est ce qu'on voit. Bien. Alors, maintenant, que nous raconte le conte manichéen ? Alors, je rappelle que c'est traduit par Henning dans son article « Sogdian Tales » que j'ai été amené souvent à citer. Bon, c'est un des plus grands articles qu'on ait écrit sur la littérature sogdienne, en 1945, parce que c'est là que Henning a eu la révélation de ce qu'était la vraie langue sogdienne, c'est-à-dire la langue de l'épopée. Il avait eu la même impression avec le fragment de Rostam, le vrai sogdien, qui est une langue qui se prête à la narration, qui est très souple, etc. Et auparavant, on connaissait du sogdien les traductions de textes chrétiens et de textes bouddhiques que Henning a qualifié de misérable bégaiement. Et là, c'est du vrai sogdien. Bien. La scène, bon, c'est clairement, se passe dans un bateau, dans la mer, et le personnage qui parle ici, le fils du marchand, qui est avec lui dans le bateau. Alors, on voit qu'ils sont sous pression pour prêter un serment. Donc le fils dit « Prie et prête le serment, et à cet instant, cela va se calmer et nous serons sauvés. » Pendant une semaine, il le pressa de prêter serment, mais il ne s'y résolut pas. Le marchand pensa « Une grande catastrophe menace ma maison. » Et il céda. Devant l'esprit démoniaque, le marchand prêta ce serment. « Si nous échappons sans dommage à cet océan, je l'offrirai à l'esprit de l'océan. » Quand au huitième jour, il eut prêté ce serment, alors je l'offrirai, je vous dis tout de suite, c'est sa fille. Quand au huitième jour, il eut prêté ce serment, à ce même instant, la tempête cessa, et le marchand sortit sain et sauf sur le rivage, avec son fils et son immense trésor. Mais il commença à marcher plongé dans ses pensées, s'arrêtant parfois. Que va-t-il advenir avec ce serment que j'ai prêté ? Peut-être, quand j'approcherai de ma maison, ma fille viendra la première à ma rencontre. Alors, c'est un thème qu'on trouve dans plusieurs... Ça se trouve dans la Bible, l'histoire de Jephtha qui va à la guerre et qui promet que s'il remporte le combat, il sacrifiera à Dieu le premier être qu'il rencontrera en rentrant chez lui, et c'est sa fille. Bien. Comme Henning l'avait remarqué, on voit bien ce qui se passe. Le serment, c'est que il a offensé d'une manière ou d'une autre le marchand, a offensé un être divin ou démoniaque, ou bien c'est simplement qu'il est pris dans la tempête et il veut s'en sortir, et donc l'autre lui fait prêter serment de sacrifier le premier être qu'il rencontrera quand il rentrera chez lui. Alors un conte. Une légende grecque qui est très très proche de ce récit, c'est la légende d'Idoménée. Idoménée, roi de Crète, il est pris dans une tempête, il prête serment à Poséidon de sacrifier la première personne qu'il rencontrera à son retour, c'est son fils. Bien. Alors, plus largement, c'est le thème la belle et la bête. C'est-à-dire... un père se retrouve obligé de remplir une promesse à quelqu'un qui l'a aidé ou à quelqu'un qui l'a offensé, et donc il lui sacrifie sa fille. Alors soit il la tue, soit il la donne en mariage, et quand il la donne en mariage, en général, la fin de l'histoire, c'est que le démon en question était en fait un beau prince qui avait été lui-même victime d'un sort, et la fille, surmontant son dégoût physique, éprouve de l'amour pour cet être, et donc l'amour va sauver tout le monde, et le beau prince va retrouver son apparence. C'est à peu près comme ça, en général, que ce type de récit se termine. Alors, on voit, il y a des choses qui ont l'air de coller, mais malgré tout, il y a pas sur la peinture. Bon, il semble, on voit pas la tempête. Le personnage n'est pas un marchand. Bon, il y a quand même, il y a l'esprit de l'océan, mais c'est pas les analogies sont pas évidentes. Alors, il se trouve qu'il y a une autre proposition par Grigori Semyonov, qui était un collaborateur de Marchak sur la fouille de Penjikent. Tous deux sont morts maintenant, mais qui travaillait aussi à l'Ermitage. Il se trouve qu'il avait fait un cycle de conférences en allemand, avec un certain nombre d'études de la culture sogdienne qui lui étaient propres. Alors, pour l'anecdote, Marchak était un patron assez autoritaire. Bien. Et donc, quand Semyonov a éprouvé le besoin de prendre une certaine distance par rapport aux théories du maître, il l'a fait en Allemagne et en allemand. Il aurait eu un peu de mal à faire ça au musée de l'Ermitage. Semyonov rattache ça pense que le conte se rattache aussi globalement au thème La Belle et la Bête. Alors il y a aussi le thème Cupidon et Psyché qui a des analogies, c'est-à-dire c'est la jeune fille qui va être sacrifiée, alors toujours l'histoire du sort, qui est en fait enlevée par un esprit. Alors il se trouve, là c'est pas la laideur qui fait l'obstacle, c'est que l'esprit, elle a pas le droit de le voir, il est invisible. Donc dans la version qui nous a été transmise par Apulée, l'esprit c'est Eros. Bon. Et alors elle rompt son serment, elle le regarde, alors ça se passe très mal, elle a toutes sortes de malheurs, et puis finalement à la fin c'est toujours pareil, l'amour triomphe. Bien. Donc, ça tourne autour des mêmes thèmes. Alors, ici, on serait en fait assez près d'un des sous-types de La Belle et la Bête, tel que, ce sous-type-là décrit par Arne Thompson. Il y a aussi ce livre, The Tale of Cupid and Psyche, qui rassemble toutes les versions. Alors, comment est-ce que Semyonov nous propose de comprendre l'histoire ? C'est assez astucieux. En fait. C'est assez astucieux et en général, je pense, Pavel Lourier, j'ai l'impression, par exemple, qu'il pencherait pour la version Semyonov. Ce personnage, le vieillard, c'est évidemment le père de la fille, dans toutes les versions. Et alors là, ce qui est important, c'est la fleur du milieu. On peut dire, bon, c'est juste un élément du décor, ça existe dans la peinture sogdienne, bon. Mais bon, c'est quand même intéressant, elle a trois fleurs et elle occupe beaucoup de place. Or, dans La Belle et la Bête, le père a offensé le démon en cueillant trois roses dans son jardin, parce que sa fille lui avait demandé de ramener de voyage trois roses. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le thème La Belle et la Bête, ce qui en fait se rapproche le plus de ce qu'on voit ici, c'est les versions qui ont été écrites en français au milieu du XVIIIe siècle. Les Contes marins de Gabrielle Suzanne de Villeneuve et Le Magasin des enfants de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Il se trouve que, alors c'est pas dans Perrault, c'est pas dans Grimm, ce sont, ça a été recueilli où, comment, on sait pas, mais on voit que ces contes ont parfois des survies très longues et très obscures, avec beaucoup de détails qui se retrouvent. Alors, ce qui se passerait ici, c'est que, c'est astucieux comme idée, mais Marchak l'avait déjà eu. C'est en fait la façon indienne de prêter serment. On prête serment en tenant une cruche d'une main et de l'autre main, on verse de l'eau sur la main de celui qu'on veut lier par le serment. Et ça, c'est typique de l'Inde. Je me suis renseigné pour l'Iran et il ne semble pas qu'il y ait ça. Il y a du serment par l'eau on boit, mais il n'y a pas cette histoire de verser de l'eau sur les mains. Donc en fait, le père, pour apaiser la colère du démon dont il avait volé trois fleurs dans son jardin, lie sa fille avec le serment et l'oblige, la contraint à aller épouser le démon. Et donc là, mais alors le démon, lié par un sort et caché au fond des eaux, il ne peut pas apparaître sur la terre. Donc elle va tendre une cruche dans l'eau, et dans la cruche, elle a déposé un anneau qui est le signe qu'elle lui est promise. Voilà, c'est un gage de fiançailles. Alors, ça ne nous donne, typique des images de contes sogdiens, ça ne nous donne pas le début. On n'a pas la... Oui, plutôt ça le donne, parce qu'on a quand même, les trois fleurs. Ça ne nous, nous donne pas le happy end. C'est-à-dire qu'elle va finalement s'éprendre de son époux qui va retrouver son apparence humaine. Bon, là, c'est quand même assez convaincant comme explication. Donc, donc là, je dirais, bon, oui, d'accord, il y a des analogies avec le conte manichéen, mais l'analogie est quand même assez générale, et c'est autre chose qu'on nous a représenté ici, et quelque chose qui ressemblait assez à La Belle et la Bête. Alors, je vais maintenant aborder la question des contes manichéens. Alors, la catégorie numéro 2, donc, le cas de figure numéro 2, on a vu donc les contes qu'on a à la fois en texte sogdien et en peinture, très peu, et ceux qu'on a qu'en texte sogdien. Alors, tout ça, ce sont des contes évidemment manichéens, comme je l'ai dit, voire transmis par les manichéens. La grande majorité de ces contes manichéens est d'origine indienne. Dans certains cas, la source est biblique. Il y a un cas un peu particulier, le perceur de perles. On l'a déjà vu au début. C'est un conte qui n'est pas attesté en Inde. C'est apparemment un conte persan qu'on retrouve dans la préface Pélévi du recueil Kalilé et Demné, qui est en principe transcrit de conte indien, mais là c'est une originalité. Henning a bien remarqué que le style de ces contes, qui sont presque tous des traductions ou des traductions de traductions, ce style est très généralement très supérieur à celui des textes bouddhiques ou chrétiens, qui sont aussi des traductions. Pour deux raisons. Les manichéens étaient des meilleurs traducteurs. Les manichéens étaient polyglottes. Parce que le prophète Mani, dès le début, les avait enjoints à prêcher dans toutes les langues de la terre. Et ils avaient, semble-t-il, même une certaine formation linguistique. Mani avait mis au point un alphabet très phonétique, très supérieur par ses qualités à tous les alphabets auparavant utilisés au Proche-Orient, parce que là, les syllabes sont transcrites, et l'alphabet manichéen, c'est un véritable délice pour les philologues, parce que quand une langue est connue par dans des versions manichéennes, ça nous donne la prononciation. Alors que sinon, on a l'alphabet araméen, les alphabets dérivés de l'alphabet araméen, c'est comme l'alphabet arabe. Il y a les consonnes, et puis pour les voyelles, on se débrouille comme on peut. Parfois elles sont notées, parfois non. Donc les manichéens maniaient les langues avec beaucoup de compétences. Et puis par ailleurs, quand ils traduisaient des contes, ils les traduisaient de langues iraniennes. Il se peut qu'ils aient traduit directement de l'indien, mais on a l'impression quand même que dans un certain nombre de cas, c'est traduit du parthe. Le parthe est une langue iranienne, alors que les pauvres bouddhistes, ils traduisaient du chinois. Et l'or chinois n'était pas fantastique. Quand on fait des comparaisons entre les idéogrammes chinois et ce que ça donne en sogdien, on voit que c'est quand même un niveau de compétence pas très élevé. Ils traduisaient parfois de l'indien, mais en général du chinois. Donc, supériorité littéraire et considérable des traducteurs manichéens. Alors, question. Est-ce que ces textes manichéens qu'on a en sogdien ont circulé dans le public sogdien? Est-ce qu'ils étaient disponibles aux gens qui illustraient et qui commandaient ou contemplaient ce genre d'image? En fait, il semblerait que non, parce que on a pratiquement, à part le marchand et l'esprit qu'on vient de voir là, on n'a pas de texte manichéen directement de conte manichéen directement illustré à Penjikent. C'est-à-dire que ce sont des versions divergentes, parallèles. Ça aboutit dans des recueils de contes manichéens, mais ça a peut-être été un cul-de-sac en réalité. Ça circulait chez eux, petite secte, peu nombreuse, répandue jusqu'à la Chine. C'est pas évident que ça en sortait. Ce qui en sortait, c'était des versions parallèles des mêmes récits. Je cite Marchak, 2004. Est-ce que le peuple de la Sogdienne lisait les livres ou écoutait les histoires qui ont servi de source pour les paraboles des prédicateurs manichéens en Chine? C'est assez peu vraisemblable. Alors, je vais en venir à plusieurs de ces textes. Le principe, je vais commencer à l'aborder aujourd'hui. Le plus amusant, c'est un texte qui s'appelle le César et les voleurs. Voilà, le César et les voleurs, qui peut-être est traduit du Parthe, on n'est pas complètement sûr. Alors, ce texte, c'est un cas complètement à part. On ne l'a jamais retrouvé ailleurs, dans aucune autre langue. Et il n'a jamais été illustré, nulle part. Et c'est bien dommage, parce que ce serait vraiment amusant de l'avoir sous forme illustrée. Alors, Henning était un peu, l'avait extrêmement bien compris et traduit, mais en même temps, il était un peu découragé. Il écrivait « rather nebulous ». Comprend pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux, mais il faut, une fois qu'on admet le fait, qu'il y a plusieurs niveaux d'exégèse. C'est-à-dire que c'est une combinaison absolument extraordinaire de plusieurs niveaux symboliques. Il y a d'abord, dans le récit cadre, on voit très bien, ce sont les contes grecs d'enterrés vivants. La littérature grecque est remplie d'histoires d'enterrés vivants. La fiancée de Corinthe, etc. Ils adoraient ces histoires-là. Bon. L'histoire qui se passe dans les tombeaux. Alors, parfois, il y a des vampires. C'est un fond grec. Mais en même temps, ça paraît pas très évident comme ça, mais en fait, c'est la réalité. L'histoire se déroule à Palmyre. L'histoire se déroule à Palmyre. Je vais vous expliquer la prochaine fois pourquoi. Palmyre, ville frontalière de la Syrie, convoitée et parfois, non, jamais prise, convoitée par l'Empire sassanide et qui a joué un rôle décisif dans les guerres frontalières entre l'Iran et l'Empire romain dans la deuxième moitié du IIIe siècle, et en même temps qui était un point d'aboutissement de la mission manichéenne dès le début. Alors ça, c'est très important, c'est que dès le du vivant de Mani, il avait en fait deux principaux disciples qu'il a très doué pour les langues. Un qu'il a envoyé à l'Est, c'était Mar Ammo, qui a lui-même composé des textes de littérature manichéenne, et l'autre qu'il a envoyé à l'Ouest, qui était Mar Adda. Et c'est cette mission de l'Ouest des manichéens qui, un siècle plus tard, va nous donner saint Augustin, hein, converti au manichéisme à Carthage par un dignitaire manichéen qui s'appelait Faustus. Alors, évidemment, je ne vous le cache pas, on est plusieurs à penser, c'est le cas de Michel Tardieu, que c'est une des origines du Faust de Goethe. Là, on a en fait un écho de la mission manichéenne à Palmyre. Et puis, troisième niveau d'exégèse, il y a là-dedans des codes qui sont typiquement zoroastriens. Seul un zoroastrien ou quelqu'un familier du zoroastrisme peut comprendre ça. En même temps, avec un type de zoroastrisme tel qu'on l'avait en Asie centrale, c'est-à-dire avec des mélanges iconographiques avec la religion grecque. C'est un millefeuille interculturel tout à fait extraordinaire. C'est un crève-cœur qu'on n'ait ni le début ni la fin, parce que ce serait prodigieux. Alors, comme je vous l'ai annoncé, je vais m'arrêter là pour cette fois.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.